Voilà, alors après la vie de Saint-François de Sales, on va commencer sur la pédagogie de Saint-François de Sales. Alors aujourd'hui, ça va être plutôt le but de notre vie spirituelle, le but de si on cherche à être accompagné, etc., quel est le but? Alors, vous verrez dans les textes, etc., de Saint-François de Sales que, c'est en guise d'introduction, Saint-François de Sales, c'est pas un spéculatif, hein, c'est pas quelqu'un d'idéologue, il est très pragmatique. Voilà, par exemple, une citation. « Tenez pour suspect tous ces désirs d'une certaine perfection chrétienne qui peut être imaginée mais non pratiquée et de laquelle plusieurs font des leçons mais nul n'en fait les actions. » Lui, son but, c'est d'être chrétien, c'est pas de posséder la doctrine chrétienne de manière intellectuelle et un peu désincarnée, non, c'est de vivre notre vie chrétienne. Hein. C'est vraiment le but de Saint-François de Sales. Il est vraiment dans l'ordre des vertus théologales. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on ait une relation avec Dieu. Ce n'est pas qu'on sache des tas de choses sur Dieu. Alors, bon, bien sûr, hein, il peut, c'est un docteur de l'Église, hein, il nous apprend des choses aussi sur Dieu. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est qu'on ait une relation vivante avec Dieu. C'est ça qui intéresse Saint-François de Sales. Donc, déjà dans le but, on en dit déjà quelque chose. Et une deuxième note, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que Saint-François de Sales est plutôt dans le registre de l'encouragement. Hein, il est plutôt optimiste, sympathique. C'est pas le quelqu'un de très sévère, etc. Même si vous verrez qu'il est peut-être, il est même certainement très exigeant aussi. Mais pas brutal, pas voilà. Il sait être exigeant, mais il est plutôt dans le registre de l'encouragement de la positivité, si je peux prendre le mot. Une troisième note avant de commencer, c'est que Saint-François de Sales s'exprime simplement, il utilise beaucoup d'images. Ces images, elles nous font quelquefois un peu sourire parce qu'il avait un livre, je ne me rappelle plus de qui, où il prenait beaucoup d'images, mais elles ne sont pas toujours tout à fait actuelles, certaines de ces images. Mais voilà. Et en tout cas, il est très accessible, comme vous le disiez. Saint-François de Sales, c'est vraiment quelqu'un de très, très accessible. Ce n'est pas un théoricien, etc. Alors donc, aujourd'hui, on va voir plutôt le but, la finalité. Si on veut avancer dans la vie spirituelle, la première chose, je pense, et Saint-François de Sales nous y aide, c'est de savoir où on va. Alors, il y aura deux parties. La première partie des mauvaises finalités. On ne prend pas la bonne route, donc on n'arrive pas au bon endroit. Et il y aura sept mauvaises voies. Et puis après, une deuxième partie, ça sera plutôt voilà, ce que nous indique Saint-François de Sales comme la voie, la cible à viser. Et voilà ce qui est le but à poursuivre. Et spirituelle du mois de décembre, on verra plutôt les moyens pour atteindre le but. Ça va jusque-là? Bon. Ah oui, encore une autre chose dans l'introduction. Saint-François de Sales est très attaché à l'intention. Quelles sont nos intentions, le but, la finalité de nos actes? Alors, je ne sais pas, comme je me trouve devant des théologiennes, peut-être que vous savez que les différents éléments de la moralité d'un acte, je vous parle hébreu peut-être là. Alors, traditionnellement, dans l'Église catholique, on parle de... D'abord, il y a ce qu'on appelle la matière de l'acte ou l'objet de l'acte, je vole. La matière de l'acte, c'est j'ai volé quelque chose qui m'appartenait. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas et voilà, sans que j'en ai un besoin impérieux. Voilà. Et ça, c'est l'objet, la matière de l'acte. Ça reste toujours ce qui est premier quand même. Il faut toujours se référer à quelque chose d'un peu concret, objectif. Mais après, il y a un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est l'intention. Dans quelle intention je pose cet acte. Vous savez bien que Jésus nous le dit, par exemple, quand tu fais l'aumône, tu fais pourquoi l'aumône ? Pour aider le pauvre ou justement parce qu'il y a du monde qui te regarde et tu veux paraître généreux et tout ça. Alors ce jour-là, tu te sors un billet au lieu d'une pièce. Mais donc Saint François de Sales est très très attaché à l'intention. Il n'oublie pas bien sûr que l'essentiel c'est d'abord la matière de l'acte, mais voilà, il est très attaché aux intentions qui sont beaucoup plus cachées. Mais et Jésus insiste aussi sur l'intention dans l'Évangile. Mais après, un troisième élément pour la moralité d'un acte, c'est les circonstances. Les circonstances, ça peut atténuer notre responsabilité ou l'aggraver. Ou voilà, ça, c'est les circonstances. Mais les deux éléments majeurs, c'est d'abord la matière de l'acte, l'objet de l'acte, et après l'intention. Voilà, c'était juste par rapport pour démarrer. C'est important parce que l'intention, avec Saint François de Sales est attaché à l'intention, mais l'intention ne suffit pas. Hein. Vous connaissez le dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, parce que si vous avez une bonne intention, mais vous faites quelque chose objectivement mauvais, ça reste mauvais. Mais s'il est attentif à l'intention, Saint François de Sales, c'est justement parce qu'il veut conduire les gens à la perfection. Il ne veut pas se contenter du fait qu'on fasse un acte extérieurement bon, faire l'aumône par exemple, mais justement qu'on aille jusqu'au bout de notre geste, qu'on ne le fasse pas pour se faire admirer, mais par amour de Dieu et par amour du pauvre. Donc c'est pour ça que Saint François de Sales est attaché à ses intentions. Alors, donc les sept mauvaises finalités, on va dire, pour notre cheminement spirituel. Première, Saint François de Sales est très connu pour ça. Hein, le but, c'est pas de rechercher un état de vie de perfection, hein, le nôtre, mais à la perfection d'un état de vie. C'est-à-dire que Saint François de Sales était très attaché justement à ne pas rêver la vie du voisin ou de la voisine, mais vraiment assumer sa propre vie. Une fois qu'on s'est engagé dans un état de vie, ben c'est là qu'on doit être saint. Je vous cite, si vous voulez, quelques passages de Saint François de Sales. Il y en a qui sont celui que je vais vous citer, il est archi connu. Alors, oui, donc, l'introduction à la vie dévote, s'adresse à Philothée. Philothée, en fait, au départ, il écrivait à une de ses nièces ou cousines, et puis après, ça a été rassemblé, il a rassemblé tous ses mots, il écrivait quand même pas mal. Et puis, donc, il en a fait un livre. Philothée, c'est celle qui aime Dieu, hein, le sens du mot. Et après, il aura un autre livre, le traité de l'amour de Dieu. Alors là, il s'adresse à Théotime. Hein, donc, il a pris ce nom comme ça pour... voilà. Alors, donc là, il s'adresse à Philothée. Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits, chacune selon leur genre. Ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, chacun selon sa qualité et vocation. La dévotion doit être différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée. Et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Je vous prie, Philothée, serait-il à propos que l'évêque voulût être solitaire comme les chartreux? Et si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que les capucins? Si l'artisan était tout le jour à l'église comme le religieux, et le religieux toujours exposé à toutes sortes de rencontres pour le service du prochain comme l'évêque? Cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable? Cette faute, néanmoins, arrive bien souvent. C'est une erreur, et même une hérésie de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Il est vrai, Philothée, que la dévotion purement contemplative, monastique et religieuse ne peut être exercée en ces vocations-là. Mais aussi, outre ces trois sortes de dévotions, il y en a plusieurs autres propres à perfectionner ceux qui vivent dans l'état séculier. Où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. Voilà, alors ça c'est typique de saint François de Sales. Hein. Il ne cherche vraiment pas à nous retirer de l'endroit où on est, à rêver une vie autre que celle que nous avons, mais à nous investir là où on est et à être saint là où on est. Hein. Alors il y a des citations qui sont assez connues. « Fleuris là où tu es planté », ça c'est de saint François de Sales. Ou « Si tu pars pas de là où tu iras nulle part ». C'est un peu différent, mais saint François de Sales est très attaché à ne pas s'évader. Voilà, il est très concret, saint François de Sales. Donc, ça peut faire mal quelquefois, parce que quelquefois, on aimerait bien s'évader un petit peu. Il faut considérer qu'il n'y a nulle vocation qui n'ait ses ennuis, ses amertumes et dégoûtements. Alors, du coup, il dit il y a des évêques qui ne voudraient pas l'être, mais qui préféraient être des gens mariés, qui préféraient être dans un monastère. Et il dit, bon, alors, le mot résignation, il faut bien le prendre, mais quiconque n'est pleinement résigné, qu'il tourne de ça et de là, il n'aura jamais repos. Ceux qui ont la fièvre ne trouvent nulle place bonne. Alors, l'idée, c'est vraiment de demeurer là où on est et de fleurir là où on est planté. Ou encore, je vous le cite pas mal quand même, « Dieu aime notre vocation, aimons-la bien aussi, et ne nous amusons pas à penser à celle des autres. Faisons notre besogne, et à chacun sa croix, n'est pas trop même... voilà. » Oui, il parle de s'amuser à désirer une autre vie que la sienne. En tout cas, tous nous sommes appelés à avoir une vie spirituelle intense, que vous soyez marié, célibataire, ou enfin qu'on soit religieux, prêtre, tous sont appelés, mais selon une modalité différente. Et alors donc, c'est là après qu'il a tout un art pour nous aider à conduire. Donc, cette première fausse voie, on pourrait dire, c'est penser qu'on sera, que notre sainteté, elle est forcément dans tel état de vie. Ben, au lieu de s'évader de son état de vie, c'est investir d'abord là où on est. Sauf au moment où on choisit sa vocation, bien sûr. Voilà. Après, deuxième fausse voie, c'est penser que la sainteté, c'est où ce chemin, on avance pour plus avoir de défauts. Ce serait une sorte de perfection. Voilà. Et saint François de Sales dit, enfin, de toute façon, je pense que si on a un minimum de réalisme, on sent qu'il y a encore toujours du chemin à faire, mais voilà. C'est important aussi d'être toujours dans cette dynamique de changement. Saint Benoît l'a dit aussi pour ses moines. Si vous avez plus envie de bouger, partez du monastère, c'est pas la peine, parce que jusqu'à la fin de nos jours, on a progressé, donc on ne sera jamais arrivé au top. Donc voilà. Donc la perfection, c'est pas une perfection un peu extérieure à la manière des pharisiens, mais justement, c'est d'être continuellement dans ce chemin de conversion. Alors, je vous cite encore saint François de Sales. « Ces anxiétés d'esprit que nous avons pour notre perfection et pour voir si nous avançons ne sont nullement agréables à Dieu et ne servent qu'à satisfaire l'amour-propre qui est un grand tracasseur. » J'aime bien saint François de Sales parce qu'il ne stade pas le pouls. Il ne regarde pas. Il ne fait pas un graphique dans sa cuisine pour savoir à quel niveau de sainteté. C'est pas son problème. Il essaie de suivre au jour le jour ce que le bon Dieu lui demande. Et alors après, quand il perçoit qu'il y a des choses à bouger, il le bouge. Mais il ne mesure pas sa santé pour voir, pour se comparer aux autres. Ah, je l'ai un peu dépassé. C'est pas du tout. Vous voyez, la perfection, c'est une perfection dynamique, on pourrait dire. Une perfection d'être toujours prêt à évoluer. Et ça, c'est très important. Quand on est un peu sclérosé, on passe à côté de la santé. Hein, parce qu'il y a besoin d'avoir toujours ce désir de progresser. Et toujours aussi, la perfection aussi, si on la conçoit comme ça, il y a une manière où on se regarde un peu le nombril, on se contemple un petit peu, et ça, il n'y a rien de plus étranger à saint François de Sales. On se donne au bon Dieu, c'est tout, mais on ne revient pas sur soi-même pour voir, pour se contempler si on est... Il y a certainement d'autres citations qui viendront après, mais méfiez-vous de toutes ces menues pensées de vaine gloire qui viennent se présenter à votre âme parmi vos bonnes actions. Ne vous amusez donc point à examiner si vous avez consenti ou non, mais tout simplement continuez vos œuvres comme si cela ne vous regardait nullement. Il y a une manière d'avancer, d'aller de l'avant sans trop se tâter le pouls. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire son examen de conscience, etc., mais la question, c'est d'être décentré de soi-même. Vous connaissez ce verset de saint Paul, c'est 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15. « Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc la perfection, on le verra, il s'agit de correspondre à la volonté de Dieu, mais ce n'est pas de se regarder et d'être centré sur soi. De ce point de vue-là, le développement personnel, alors le développement personnel a ses bons côtés, si ce n'est pas la finalité ultime, si c'est un développement personnel pour mieux accomplir ma mission et tout ça, très bien. Mais si c'est la finalité ultime, je suis en train de sculpter ma statue pour qu'on admire et tout ça. Et que je... Donc, saint François de Sales est pour qu'on s'améliore, bien sûr, mais pas pour se contempler ou être contemplé par les autres. François de Sales aussi, toujours dans ce registre de la perfection, c'est une perfection très intérieure qu'il vise. Ce n'est pas une perfection extérieure que les autres pourront regarder. Hein. C'est ce qu'il est là en la ligne de Jésus. On peut attendre ça de lui quand même. Quand Jésus dit aux pharisiens, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ?» Voilà, alors c'est cette perfection, on a un désir de perfection, mais justement saint François de Sales nous aide à aller à l'intérieur, pas à l'extérieur. Juste une petite citation encore. « Grande folie de ceux qui n'estiment sains que ceux qui sont maigres, comme si la sainteté consistait en la maigreur. » Saint Thomas d'Aquin n'était point maigre et toutefois il était saint. De même, plusieurs autres qui n'étant pas maigres ne laissaient pas d'être d'excellents serviteurs de Dieu. Voilà, une manière de dire, voilà, l'apparence, la sainteté, ce n'est pas dans l'apparence. La sainteté, c'est au niveau du cœur qu'elle se situe, ce n'est pas au niveau de l'apparence. Et alors du coup, il reprend certaines de ses dirigés qui sont dans des détails un peu insignifiants. Et alors, il dit non, donnez-vous franchement, bonnement, enfin, il a des. Donnez-vous en gros, hein, pour dire. Mais sans faire trop de. Sans pinailler sur des détails, et qui sont plus de l'ordre de l'apparence. La perfection, c'est aussi, justement, elle est dans l'ordre de l'amour, elle n'est pas dans l'ordre de dans l'amour et du fait de se reconnaître pécheur, elle est plutôt liée à la relation avec Dieu, cette perfection. Vous savez que là où saint Matthieu dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », qu'est-ce que dit saint Luc, à moins que je vous ai endormi ?« Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Donc, la perfection est plutôt dans l'ordre de la miséricorde, c'est pas dans l'ordre d'être... Et du coup, cette perfection, ça sera peut-être justement de se reconnaître pécheur aussi et d'exercer la miséricorde, mais commencer par se reconnaître pécheur. Et c'est l'évangile du pharisien et du publicain. Qu'est-ce qui est reparti justifié? C'est le publicain, c'est pas le pharisien qui se trouvait très bien. Alors, saint François de Sales encore. Les défauts que vous ne connaissez pas ne vous nuisent pas, puisque vous voudriez bien sincèrement les connaître. Ceux que vous connaîtrez ne vous nuiront pas, puisque cordialement vous désirez de vous en corriger. Rien ne nuit à ceux qui sont tout à fait résolus d'aimer Dieu sur toute chose et en toute chose. Voilà. Le problème, ce n'est pas d'avoir des défauts, c'est quand on les voit, d'accepter de se mettre au travail pour les changer, autant qu'on le peut. Hein. Je vous le cite encore, « Ne nous troublons point de nos imperfections, car la perfection consiste à les combattre. Et nous ne saurions les combattre sans les voir, ni les vaincre sans les rencontrer. » Alors ça, c'était une deuxième fausse finalité, c'est la sainteté comme une perfection. Troisième fausse finalité, ce serait de penser que la sainteté, c'est plus avoir de passion, d'émotion, etc. Saint François de Sales est très humain, on y reviendra dans d'autres haltes spirituelles, mais c'est quelqu'un de très humain qui ne nous déshumanise vraiment pas. Il y a des spiritualités quelquefois ou des déviations de spiritualité qui peuvent nous déshumaniser, mais ce n'est pas du tout le cas de saint François de Sales qui est très très humain, dans le bon sens du mot. Alors je vous cite encore saint François de Sales, après vous me direz si vous préférez que je ne le cite pas autant, mais pour l'instant aujourd'hui je vais le citer. « Ne nous étonnons pas si nous avons des passions, car nous n'en serons jamais exempts. Je sais bien qu'il y a eu quelques anachorètes en Palestine qui ont voulu soutenir que l'homme, par une soigneuse et fréquente mortification, pourrait arriver jusque-là que d'être sans passion et émotion de colère. Mais leur opinion a été condamnée comme fausse par l'Église. » Le but, c'est pas d'être sans passion. La vérité est que tant que l'homme vivra et traînera sur cette terre, il aura des passions, sentira des trémoussements de colère, des soulèvements de cœur, des affections, des inclinations, répugnances, aversions et telles autres choses auxquelles nous sommes tous sujets. C'est concret, ça. Nous, on voudrait que tout soit facile, mais voilà, on n'est pas en bois, hein. Et heureusement qu'on n'est pas en bois. Il ne prêche pas l'insensibilité. Voilà, c'est. Alors, encore lui. Je n'aime nullement certaines âmes qui n'affectionnent rien et à tous événements demeurent immobiles, faute de vigueur. Je crois qu'il y a une citation assez terrible de. Je ne sais plus de qui elle est, que c'est des religieuses qui ne. Qu'à force de pas vouloir ressentir, finalement, elles étaient devenues inhumaines quelque part. Alors, il faudrait que je retrouve la citation, c'est beaucoup mieux dit que ça, bien sûr. Voilà. Ces cœurs à demi morts, à quoi sont-ils bons? Hein, donc, voilà, la perfection, c'est pas ne pas avoir de passion. Et saint François de Sales. Vous savez, où est entrée la sœur de sainte Thérèse de Lisieux, qui avait un caractère un peu difficile? À la visitation, chez les Visitandines. C'est sans doute pas un hasard. Alors, voilà. Nous sommes appelés à la sainteté avec notre caractère. Ça vous encourage? Non, vous avez un. Alors, je vous le cite. Certes, il y a des âmes simples, douces et toutes colombines, qui sont vraiment aimables. Elles sont bien heureuses. Il y en a d'autres qui n'ont point le naturel doux et simple. Elles ont des passions si fortes que quand on les contrarie, elles regimbent et mordent, car elles ont des dents. Ces âmes sont également bien heureuses si elles s'abandonnent à bon escient à la mortification de leurs passions et mauvaises inclinations, parce qu'elles deviendront capables de rendre de grands services à Dieu et acquériront de grandes et solides vertus. Et Saint François de Sales, quand il a fondé la visitation, c'est aussi pour accueillir des femmes qui avaient une santé plus fragile, etc. Donc c'est pas du tout un pélagien. Souvent le pape François se réfère aux pélagiens. Il pense qu'on peut finalement, pour les pélagiens, ceux qui ont un naturel facile, c'est un gros avantage. À la limite, ils ont à peine besoin de la grâce pour être bons, parce qu'ils le sont presque naturellement pour les pélagiens. Mais ce n'est pas comme ça dans la vie chrétienne. Alors, je ne vais pas tout vous lire quand même, mais... Je parle en ce traité de l'amour surnaturel que Dieu répand en nos cœurs par sa bonté et duquel la résidence est en la suprême pointe de l'esprit. C'est pourquoi, si deux personnes dont l'une est aimante et douce, l'autre chagrine et amère, par condition naturelle, ont une charité égale, elles aimeront sans doute également Dieu, mais pas semblablement. Le cœur de naturel doux aimera plus aisément, plus aimablement, plus doucement, mais pas plus solidement ni plus parfaitement. D'autre part, l'amour qui naîtra parmi les épines et répugnances d'un naturel âpre et sec sera plus brave et plus glorieux, comme l'autre sera plus délicieux et gracieux. Donc, c'est beau, quel que soit notre caractère, on a place, on est appelé à la sainteté. Donc, on peut pas, vous ne pouvez même pas prétexter, si c'était le cas, de votre mauvais caractère pour pas devenir sainte. Toujours dans ce registre sur les passions, etc., c'est que la recherche de la perfection ne doit pas nous dénaturer. Il appelle toujours à être vraiment soi-même. Alors, bon, bien sûr, il y a des choses qu'on doit essayer de changer, sur lesquelles on doit apprendre à bouger, bien sûr. Mais en même temps, sans se dénaturer. C'est le cardinal Danel qui disait, quelquefois, on a l'impression qu'on va être un peu sur la pointe des pieds, hein, plus différent de ce qu'on est. Mais au bout d'un moment, on attrape des crampes. Alors, voilà. Alors, une citation de Saint François de Sales à Madame Brûlard, le 10 juin 1605, vous saurez tout. Soyons ce que nous sommes et soyons le bien, pour faire honneur au maître ouvrier duquel nous sommes la besogne. On se moqua du peintre qui, voulant peindre un cheval, fit un taureau excellemment bien fait. L'ouvrage était beau en soi, mais peu honorable à l'ouvrier, qui avait autre dessein et n'avait bien fait que par hasard. Soyons ce que Dieu veut, pourvu que nous soyons siens, et ne soyons pas ce que nous voulons contre son intention. Car quand nous serions les plus excellentes créatures du ciel, de quoi nous servirait cela si nous ne sommes pas au gré de la volonté de Dieu ? Donc, soyons ce que nous sommes et soyons le bien. Ou encore à elle, il avait besoin qu'on lui répète peut-être, 2 ans après, en juin 1607, ne désirez point de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être fort bien ce que vous êtes. Donc elle avait peut-être du mal à s'aimer elle-même, mais ce n'est pas votre cas, bien sûr. Donc. Alors, la deuxième. Ne désirez point de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être fort bien ce que vous êtes. Je répète pour le plaisir une troisième fois. Ne désirez point de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être fort bien ce que vous êtes. Donc, Saint François de Sales, il nous invite vraiment pas à nous fuir nous-mêmes, mais être vraiment nous-mêmes, mais dans ce qu'on a de meilleur aussi. Et bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut changer. Hein. Encore une fois, on le disait un peu avant, il nous invite à être toujours dans cette dans une dynamique de progrès, hein, à ne pas nous asseoir, et puis voilà. Alors ça demande du travail, justement. Je vous cite encore Saint François de Sales. Hélas, disent les jeunes apprentis de la perfection, que ferons-nous? Mes passions que je pensais avoir mortifiées par une fervente résolution me tourmentent encore. Le découragement me poursuit. Mon Dieu, la grande pitié que le seul désir de la perfection ne suffise pas pour l'avoir, mais qu'il faille l'acquérir à la sueur de notre visage et à force de travail. Consolez-vous, je vous prie, et prenez courage, ce n'est pas maintenant l'heure du repos. Ah, donc, voilà, ça ne se fait pas tout seul non plus. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Une quatrième fausse piste, c'est penser qu'on n'aura pas de tentation. Alors, ça rejoint ce que François de Sales vient de dire. Le repos, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour l'au-delà. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on soit tenté. Ça fait partie de notre vie. Je vous le cite. « Dieu ne veut pas empêcher que nous ne soyons attaqués de tentations afin que, résistant, notre charité soit plus exercée et puisse, par le combat, emporter la victoire et, par la victoire, obtenir le triomphe. » Et il ajoute aussi que plus on veut devenir saint, plus on risque d'avoir des tentations aussi. Donc, alors, si vous avez des tentations, ça peut vous faire du bien. Il faut en effet que vous sachiez que notre ennemi, le diable, tente souvent les âmes les plus pieuses, les plus retirées et à donner au service de Dieu. Et en même temps que la tentation, comme le dit l'Écriture aussi, il nous donne la force hein, pour la porter. Et ces tentations nous aident à progresser. Je vous cite encore Saint François de Sales. Dieu permet que nous soyons tentés pour nous rendre vaillants et courageux en son service pour la conquête de solides vertus. Donc ça, c'est une cinquième voie où on pourrait se dire, bon, j'aurai pas de tentation, mais non, au contraire. Cinquième fausse voie, c'est penser que la sainteté, ça consiste à savoir beaucoup de choses dans le domaine spirituel ou à désirer beaucoup de choses. Alors là encore, Saint François de Sales nous ramène à la réalité. Le but, ce n'est pas tellement de connaître. Là, c'est aussi quelque chose que le pape François revient très souvent. Il parle souvent du pélagianisme que j'ai évoqué tout à l'heure et il parle souvent du gnosticisme. Le gnosticisme, c'est... la gnose et tout ça, c'est penser qu'on sera sauvé en connaissant, par la connaissance. Mais non, on n'est pas sauvé par la connaissance. Alors, bien sûr qu'il y a des choses à connaître, mais ce n'est pas d'abord la connaissance qui nous sauve. Je vous cite encore. Hélas, la beauté de l'esprit en ruine souvent la bonté, alors que ces papillons se mirent en le brillant de leurs vaines ailes et veulent les voir au feu qui les brûle. Oh, que la science est dangereuse, pour grande qu'elle soit, quand elle opère sans charité et humilité. Donc, et Saint François de Sales insiste beaucoup pour dire, il ne suffit pas de désirer, il faut passer à la pratique. Alors, certains voudraient avoir toutes les vertus tout d'un coup, comme si la perfection ne consistait qu'à la désirer. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. Il faut vraiment passer à la pratique. Toujours dans ce registre, Il présente l'exemple de saint François d'Assise, qui n'était pas un grand savant dans le sens où il n'avait pas lu une multitude de livres, etc., mais qui avait une connaissance savoureuse de la parole de Dieu. Et on voit toujours l'équilibre de saint François de Sales. Il dit, ceci dit, il n'entend pas déprécier la science. Je vous le cite. Cependant, la science de soi n'est point contraire, mais bien utile à la dévotion. Et si elles sont jointes ensemble, elles s'entraînent admirablement. L'éminente science des pères et docteurs de l'Église a non seulement beaucoup illustré, mais grandement affiné leur dévotion, comme réciproquement, leur dévotion a non seulement rehaussé, mais extrêmement perfectionné leur science. La connaissance est requise pour la production de l'amour, car jamais nous ne saurions aimer ce que nous ne connaissons pas, et à mesure que la connaissance attentive du bien augmente, l'amour aussi prend davantage de croissance, pourvu qu'il n'y ait rien qui empêche son mouvement, et même dépasse la connaissance. On voit bien que quelquefois il y a des grands théologiens, il y a différentes catégories de grands théologiens, il y a des grands théologiens mais qui ont oublié la prière, etc. Et finalement c'est une science un peu sèche qui ne nourrit pas et qui quelquefois qui les amène justement à dévier dans leur théologie. Et puis il y en a d'autres aussi, des grands théologiens comme Benoît XVI qui en même temps que cette science ont aussi une vie spirituelle profonde. Et alors là, c'est le bonheur, parce que à ce moment-là, ils peuvent vraiment nous éclairer. Sixième fausse piste, je vous en donnerai des bonnes avant d'arriver à la fin. Sixième, c'est multiplier les exercices de dévotion ou d'austérité. Et saint François de Sales ne manque pas aussi de se moquer un peu gentiment, de faire un peu d'humour de temps en temps. Hein. Vous le verrez là. Il y a quelque temps, de saintes religieuses me dirent « Monseigneur, que ferons-nous cette année ? L'année passée, nous jeûnâmes 3 jours de la semaine et nous faisions la discipline au temps. Que ferons-nous maintenant le long de cette année ? Il nous faut bien faire quelque chose davantage. » Tant pour rendre grâce à Dieu de l'année passée que pour aller toujours croissant. Réponse. C'est bien dit qu'il faut toujours avancer, répondis-je, mais pas de cette façon. L'année passée, vous jeûniez 3 fois la semaine et vous faisiez la discipline 3 fois. Si vous voulez toujours doubler vos exercices, cette année, la semaine y sera entière, mais l'année qui vient, que ferez-vous ? Il faudra que vous fassiez 9 jours en la semaine ? Ou bien que vous jeûniez 2 fois le jour ? Croyez-moi, l'Église veut que l'on penche toujours plus à la charité qu'à l'austérité. Alors, autre texte de saint François de Sales. Il y a des avares spirituels qui ne sont jamais rassasiés. Ils ne cessent d'être toujours en action pour inventer de nouveaux moyens afin de ramasser toute la sainteté des saints en une sainteté qu'ils voudraient avoir. Par conséquent, ils ne sont jamais contents parce qu'ils n'ont pas la force de retenir tout ce qu'ils prétendent embrasser. Car qui trop embrasse mal étreint. Il voudrait toujours porter la R. Vous savez ce que c'est ? C'est une chemise rugueuse qu'on prenait pour se mortifier. Vous n'en avez pas, visiblement. Donc, il voudrait toujours porter la R sur le dos, faire la discipline à tout propos, prier continuellement les genoux nus, vivre en solitude, et que sais-je, moi ? Et encore, cela ne les satisferait point. Et pauvres gens, qui ne voulaient pas qu'il y ait aucun plus saint que vous, que ne vous contentez-vous de votre sainteté telle que vous la pouvez avoir, ne faisant pas un si grand amas d'exercices. Encore dans la même veine. Gardez vos forces corporelles pour servir Dieu, en pratique spirituelle que souvent nous sommes contraints de laisser, quand nous avons indiscrètement surchargé le corps qui, avec l'âme, les doit exercer. Manger peu, travailler beaucoup, avoir beaucoup de tracas d'esprit et refuser le dormir au corps, c'est vouloir tirer beaucoup de service d'un cheval qui est efflanqué et sans le faire repaître. Donc il faut soigner le cheval, si vous voulez. Donc on voit tout l'équilibre de saint François de Sales qui... Les austérités, bon, c'est bien, mais le but, ce n'est pas l'austérité, c'est d'aimer. Et c'est avant tout l'obéissance. Alors, aujourd'hui, on fête Sainte Gertrude. Alors, François de Sales prend l'exemple de Sainte Gertrude. Sainte Gertrude fut faite religieuse en un monastère où il y avait une supérieure, laquelle reconnaissait fort bien que la bienheureuse sainte était d'une complexion faible et délicate. C'est pourquoi elle la faisait traiter plus délicatement que les autres religieuses, ne lui laissant pas faire les austérités que l'on avait coutume de faire en cette religion. Vous donc, que faisait la pauvre fille pour devenir sainte? Rien autre chose que de se soumettre bien simplement à la volonté de la mère. Et bien que sa ferveur lui fait désirer de faire ce que les autres faisaient, elle n'en témoignait pourtant rien. Car quand on lui commandait d'aller se coucher, elle y allait simplement, sans réplique, étant assurée qu'elle jouirait aussi bien la présence de son époux, de Jésus, dans son lit, par obéissance, que si elle eût été au cœur avec ses sœurs et compagnes. Et pour témoigner de la grande paix et tranquillité d'esprit qu'elle acquit en cette pratique, notre Seigneur révéla à sainte Mechtilde, sa compagne, que si on le voulait trouver en cette vie, qu'on le cherchât premièrement au très saint sacrement de l'autel, et puis après, dans le cœur de Sainte Gertrude. Voilà. Donc, mieux vaut l'obéissance que l'austérité. Et... Alors, justement, la perfection, c'est de l'ordre de l'amour. Dieu n'a pas mis la perfection à la multiplicité des actes que nous ferons pour lui plaire, mais seulement la méthode que nous tiendrons en eux, qui n'est autre chose que de faire le peu que nous ferons selon notre vocation, en l'amour, par l'amour, pour l'amour. Voilà, voilà, c'est vraiment ce qui doit guider la perfection, c'est pas multiplier les exercices d'austérité, ce qui est votre cas, ou de dévotion. Et septième et dernière fausse... voir, ce serait de s'attacher plus à l'amour, comme dit saint François de Sales, à l'amour affectif qu'à l'amour effectif. Il y a un amour où voilà, on perçoit qu'on aime le bon Dieu et tout ça, c'est plutôt agréable finalement. Et puis il y a un amour qui est un peu plus austère. Notre Seigneur ne se contente pas de l'affectif si on ne lui donne encore l'effectif. Il ne s'agit pas simplement d'écouter la parole, hein, il prend Marthe et Marie, mais il faut aussi agir après. Quand il parle de Marie.
L'effectif, c'est juste les actes.
Pardon ? C'est les actes affectifs, c'est plutôt le désir d'aimer, ce sentiment d'aimer, le sentiment d'aimer le bon Dieu, etc. Tandis qu'effectif, c'est lui manifester par des actes. Là, par exemple, il parle des consolations de l'oraison. Et alors, si quelqu'un va à l'oraison pour avoir des consolations, c'est pour avoir un amour affectif. En revanche, voilà, il invite à être prêt à souffrir la peine des continuelles distractions, sécheresses et dégoûts qui surviendront dans l'oraison. Hein, de ce fait d'être prêt, bon, l'oraison, elle ne sera peut-être pas enthousiasmante, mais j'y suis là pour Dieu. L'important, c'est que Dieu m'attend dans ce temps d'oraison. C'est ça qui est... Donc, c'est un amour vraiment effectif et non pas seulement affectif. Ou alors, il parle des extases. Ça rejoint encore la même chose. Alors, ça vous concerne certainement, mais... mais pour celles qui n'en auraient pas... Les extases ne sont nullement nécessaires pour bien servir et aimer Dieu. Voilà. Quand donc on voit une personne qui en l'oraison a des ravissements et néanmoins n'a pas d'extase en sa vie, c'est-à-dire ne fait point une vie relevée et attachée à Dieu par abnégation des convoitises mondaines, par une intérieure simplicité, douceur et humilité, et surtout par une continuelle charité, croyez que tous ces ravissements sont grandement douteux et périlleux. Donc, il oppose l'extase de la vie, où on manifeste aussi par notre comportement qu'on aime Dieu, et l'extase, voilà. Et il préfère l'extase de la vie. Voilà, alors j'espère pas vous avoir sapé le moral. Maintenant, les bonnes finalités. La sainteté, la première chose, je pense que la sainteté, c'est d'abord une réponse à l'appel de Dieu. C'est d'abord Dieu qui a l'initiative. Vous connaissez bien cette... C'est déjà inscrit dans notre nature, quelque part, cette citation de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Il y a inscrit déjà en notre cœur ce désir de Dieu. « Ô mon âme, tu es capable de Dieu. » Ça, c'est saint François de Sales. « Rien de ce qui est moins que Dieu ne peut remplir une âme capable de posséder Dieu. » Malheur à toi si tu te contentes de moins que Dieu. Alors, là, le vocabulaire de saint François de Sales est charmant. Et donc, il veut que Dieu, il ne nous contraint pas, il ne procède pas d'abord par contrainte, mais d'abord en nous attirant en Dieu. La grâce est si gracieuse, elle saisit gracieusement nos cœurs pour les attirer. Elle ne gâte en rien la liberté de notre volonté. La grâce a des forces non pour forcer, mais pour allécher le cœur. C'est très important pour nous de voir que, voilà, on ne fait pas d'abord les choses à la force du poignet. Bien sûr qu'à certains moments, il y a des efforts à faire, mais que c'est d'abord une réponse à l'amour de Dieu. Qui nous attire, qui allèche le cœur. Oui, il faut que Dieu touche et parle à ce cœur. Alors ça, c'est donc un premier point dans cette voie, c'est d'abord prendre conscience que Dieu désire vraiment notre sainteté. C'est lui qui veut qu'on soit saint. Soyez saint parce que je suis saint. C'est la sainteté, c'est pas nous qui décidons. Alors bien sûr, à un certain moment, il faut le décider. On ne devient pas saint à notre insu parce qu'il y a des efforts à consentir. Mais ces efforts sont déjà plutôt une réponse. C'est Dieu qui désire que nous soyons saints. Et il nous revient de travailler la qualité du cœur. Comme dit saint François de Sales, c'est la qualité du cœur qui nous fait homme. Je vous le cite. L'amour est la vie de notre cœur, et comme le contrepoids donne le mouvement à toutes les pièces mobiles de l'horloge, ainsi, l'amour donne à l'âme tous les mouvements qu'elle a. C'est vraiment le... on doit travailler à cette qualité du cœur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la définition de l'âme selon Aristote. Alors, il l'applique à la vie spirituelle. L'âme est le premier acte et principe de tous les mouvements vitaux de l'homme. Et comme parle Aristote, elle est le principe par lequel nous vivons, sentons... et comprenons, dont il suit que nous connaissons la diversité des vies selon la diversité des mouvements. Ainsi, l'amour est le premier acte et principe de notre vie spirituelle par lequel nous vivons, sentons et nous émouvons, et notre vie spirituelle est telle que sont nos mouvements affectifs. Vraiment le... Bon, vraiment. « Autre citation, toujours dans l'introduction à la vie dévote, alors j'en prends un peu partout des citations, mais... La vraie et vivante dévotion au philoté présuppose l'amour de Dieu. Mais elle n'est autre chose qu'un vrai amour de Dieu. Mais non pas toutefois un amour tel quel, car en tant que l'amour divin embellit notre âme, il s'appelle grâce, nous rendant agréable à sa divine majesté. En tant qu'il nous donne la force de bien faire, il s'appelle charité. Mais quand il est parvenu jusqu'au degré de perfection auquel il ne nous fait pas seulement bien faire, mais nous fait opérer soigneusement, fréquemment et promptement, alors il s'appelle dévotion. Alors il fait des degrés, grâce, charité, dévotion. Et en un mot, la dévotion, pour lui, c'est vraiment la sainteté, la dévotion. Ce n'est pas faire ses dévotions. Hein, c'est, la dévotion n'est rien d'autre qu'une agilité, une vivacité spirituelle par laquelle la charité accomplit ses œuvres en nous. Donc, une agilité et vivacité spirituelle. Donc voilà, il invite justement pour... Le but, c'est de travailler, d'avoir un cœur de qualité, on pourrait dire. Et pour ça, ça serait un troisième point dans cette deuxième partie, c'est de combattre toutes les affections au péché, comme il le dit. J'aime bien le terme, au début, on passe peut-être un peu vite dessus sur ce terme de l'affection au péché. Mais c'est important ce terme parce qu'on voit que notre cœur est quelquefois dans certaines choses qui ne sont pas tout à fait ajustées. Et alors, à ce moment-là, saint François de Sales nous invite à purifier notre cœur, parce qu'il y a des choses, des attachements qui ne sont pas bons et qui font obstacle à ce qu'on puisse avancer dans notre relation avec Dieu. Alors, du coup, ce terme d'affection au péché, je trouve que c'est assez beau. Une citation, par exemple. « Il est vrai, mes chères sœurs, que l'on ne saurait jamais parvenir à la perfection tant qu'on a de l'affection à quelque imperfection. Car une faute, pour petite qu'elle puisse être, faite avec affection, est plus contraire à la perfection que sans autre, faite par surprise et sans affection. » On voit, il y a un attachement quelquefois à certaines choses qui n'est pas tout à fait juste. Et ça, ça nous empêche, ça abîme quelque chose de notre relation avec Dieu, de notre... Oui. Parce que Dieu veut être non seulement le premier, mais vraiment celui à qui prenne toute la place en nous. Et un dernier point qui est très caractéristique de saint François de Sales, toujours dans cette veine de cette qualité de relation avec Dieu, c'est unir notre volonté à celle de Dieu. Alors, on l'a dans certaines citations, vous l'avez déjà entendu, ce fait que combien il est important que notre volonté se glisse dans celle de Dieu. Je vous le cite encore. « La principale demande que nous devons faire à Dieu, c'est l'union de nos volontés à la sienne, et la cause finale de l'oraison consiste à ne vouloir que Dieu. La cause finale de l'oraison ne doit donc pas être de vouloir ces tendretés et consolations que notre Seigneur donne parfois, puisque l'union ne consiste pas en cela, mais au vouloir de Dieu. » Donc cette union à Dieu qu'on est appelé à rechercher, de correspondre à la volonté de Dieu. Alors, je vous cite encore, ça va, vous vous suivez ? Madame Brûlard. Ce n'est pas à nous de choisir notre volonté à notre volonté. Il faut vouloir ce que Dieu veut, et si Dieu veut que je le serve en une chose, je ne dois pas vouloir le servir en une autre. C'est un mot de merveille que celui que vous me dites. Que Dieu me mette en quelle sauce qu'il voudra, se met tout un pourvu que je le serve. Mais prenez bien garde, de bien le mâcher et le remâcher en votre esprit. Faites-le fondre en votre bouche et ne l'avalez pas en gros. C'est assez imagé, hein? Il faut regarder ce que Dieu veut, et le reconnaissant, il faut s'essayer de le faire gaiement, ou du moins courageusement. Et non seulement cela, mais il faut aimer cette volonté de Dieu et l'obligation qui s'ensuit en nous, fût-ce de garder les pourceaux toute notre vie et de faire les choses les plus abjectes du monde. Car en quelle sauce que Dieu nous mette, ce nous doit être tout un. C'est là le blanc de la perfection, le centre de la cible. Le blanc de la perfection auquel nous devons tous viser et qui plus en approche, c'est celui qui emporte le prix. Donc, le cœur de la perfection, c'est que notre volonté soit vraiment unie à celle de Dieu. Autre citation. Le parfait abandon entre les mains du Père Céleste et la parfaite indifférence en ce qui regarde la divine volonté sont la quintessence de la vie spirituelle. Encore une autre citation. Si nous sommes saints selon notre volonté, nous ne le serons jamais. Il faut que nous le soyons selon la volonté de Dieu. C'est intéressant parce que vous vous rappelez de l'expérience de Saint François de Sales, l'expérience déterminante pour sa vie, quand il avait 19 ans ou 24 ans à Paris ou à Padoue. C'était l'expérience où il pensait peut-être être damné à un moment. C'était toute la question de la prédestination. Et à un certain moment, il s'est abandonné à l'amour de Dieu. Je te fais confiance, je crois que tu es un Dieu d'amour et je te fais confiance. Mais quelque part, dans cette volonté de Dieu, s'abandonner à la volonté de Dieu, ça nous fait quelquefois peur. Parce qu'on se demande, qu'est-ce qu'il va bien vouloir pour moi ? Mais du coup, je pense que c'est profondément enraciné dans cette expérience qu'il a faite alors qu'il était assez jeune, où à un certain moment, il a capitulé. Ça s'est fait à deux reprises. Vous vous rappelez, je crois qu'il avait 19 ans à Paris, et puis après, c'est revenu une deuxième fois à Padoue. Et une nouvelle fois, il s'est abandonné, mais cette fois-ci pour de bon, je crois. Et c'est important parce que à ce moment-là, il n'a plus peur de la volonté de Dieu. Et nous, on n'en est peut-être pas tout à fait là. Peut-être pas vous, mais... Et je trouve que c'est vraiment la bascule dans sa vie où à ce moment-là, il a pu vraiment s'abandonner et faire confiance au bon Dieu. Et ça résout bien des problèmes quand on arrive à faire confiance au bon Dieu. Bon, il y a un peu de chemin pour y arriver. Et il ne faut pas se troubler de nos imperfections, comme le dit Saint François de Sales à d'autres moments. Et il sait être, brebis tondue, Dieu mesure le vent. Donc il sait que... Mais en même temps, d'avancer, de voir que c'est quand même la ligne dans laquelle l'objectif auquel nous sommes appelés, c'est que notre volonté, elle soit unie à celle du bon Dieu et qu'elle ne nous fasse plus peur, quelque part, cette volonté de Dieu. Qu'on puisse, même si ça peut... Alors, ça peut faire peur, quand on pense à la croix de Jésus, ou voilà. Ça peut... Non. Et dans notre humanité, c'est pas forcément simple à accueillir, comme pour Jésus, qui pourtant, lui, c'est de Jésus. Voilà. Alors, en guise de conclusion, peut-être. La dévotion. Alors, la dévotion dans cette perfection. C'est l'introduction à une vie de perfection chrétienne, on pourrait dire. La dévotion est la reine des vertus, puisqu'elle est la perfection de la charité. Elle est à la charité ce que la crème est au lait, la fleur à une plante. L'éclat à une pierre précieuse et l'odeur au baume. Oui, la dévotion répand partout cette odeur de suavité qui conforte l'esprit des hommes et qui réjouit les anges. Alors, il manifeste combien la dévotion, ça fait du bien à tout le monde. Et donc, voilà ce qu'il dit aussi, toujours dans l'introduction, je crois, à la vie dévote, en tout cas. Vous ne devez pas seulement être dévote et aimer la dévotion, mais vous la devez rendre aimable à un chacun. Or, vous la rendrez aimable si vous la rendez utile et agréable. Là, on voit aussi tout l'équilibre de saint François de Sales, les traits humains. Il dit, voilà, la sainteté, c'est pas quelque... Alors, il y a sans doute différents modèles de sainteté, mais celle que nous propose saint François de Sales, c'est pas une sainteté qui nous démarque des autres ou qui ferait peur aux autres. Au contraire. Vous la rendrez aimable, votre sainteté, si vous la rendez utile et agréable. Les malades aimeront votre dévotion s'ils en sont charitablement consolés. Votre famille, si elle vous reconnaît plus soigneuse de son bien, plus douce aux occurrences des affaires, plus aimable à reprendre, et ainsi du reste. Monsieur, votre mari, s'il voit qu'à mesure que votre dévotion croît, vous êtes plus cordial en son endroit et plus suave en l'affection que vous lui portez. Messieurs, vos parents et amis, s'ils reconnaissent en vous plus de franchise, de support, de condescendance à leur volonté, qui ne seront pas contraires à celle de Dieu. Bref, il faut, tant qu'il est possible, rendre votre dévotion attrayante. Alors, bon courage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais vous sentez, à travers ces quelques citations, quand même l'humanité et la... Il y a quelque chose de beau dans ce que nous propose saint François de Sales. Vous avez des questions ?
Comment se rend-il quand il doit reprendre une version référence ? Est-ce que c'est dans ce sens-là ? C'est probablement avec la vanité malgré tout, mais parfois il peut aussi se faire.
Oui, alors. Il le faisait toujours avec douceur. On parlera de la douceur parce qu'il est très connu pour sa douceur. Par exemple, Jeanne de Chantal, donc il a rencontré, et je l'ai peut-être déjà raconté ça, mais pour montrer un peu l'exigence aussi, et puis qu'il la voit une première fois, et puis il lui dit, donc elle avait plein de dentelles et tout ça, elle était coquette, hein, c'est pas défendu, hein. Mais là, elle était veuve et elle voulait se donner à Dieu. Donc saint François de Sales lui dit, il faut baisser l'enseigne. Bon, il lui dit ça. Et puis il la revoit quelques jours après. Il y avait encore quelques petites dentelles autour. Alors, je ne sais plus ce qu'il lui a dit. Bon, elle était allée découdre ses dentelles. Oui. Alors, il le faisait pour elle. Et saint François de Sales s'adaptait aussi à chaque personne aussi, et parce que le désir aussi de sainte Jeanne de Chantal, c'était de se donner à Dieu. Hein. Mais ça aurait été autre chose si elle était encore mariée, il lui aurait pas dit ça. Hein. Mais il savait être quand même. Il y a une sœur qui arrive en claquant les portes en disant « Je veux être parfaite » ou « Je veux dire... » Et il lui dit « Bon, vous repartez et vous commencez par pas claquer les portes. » Ça sera déjà... Alors après, c'est certainement dans la manière de dire aussi que c'est blessant ou c'est pas blessant. Hein. Tout est dans la manière après aussi de le dire. Mais oui, il savait être quand même assez... Mais les gens venaient à lui pour ça aussi. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Alors, il y a plusieurs situations où on peut le vivre. Si c'est quelqu'un qui en demande de progresser, il nous donne la permission aussi de lui dire des choses qui ne caressent pas dans le sens du poil, si je peux dire. Après, si c'est en famille ou tout ça, si on ne nous a rien demandé, on s'y prend un peu différemment. Hein, mais de toute façon, je pense que la correction fraternelle est précieuse. Après, c'est un art qu'on doit apprendre et qui n'est pas toujours simple. Et on tâtonne. Voilà. Et ça dépend aussi de l'autre.
Il faut avoir l'affaire avec positivité pour ne pas faire la sauce de bloc.
Oui. Alors, il y a une manière aussi de dire les choses de manière plus positive ou tout en faisant un reproche. Et une manière aussi, un point qui est très important, c'est est-ce qu'on se met un peu en quelque sorte au-dessus de l'autre ou est-ce que on se met plutôt, comme on dit, en position basse par rapport à l'autre. Le résultat n'est pas du tout le même. Si l'autre sent qu'on se met au-dessus de lui pour lui faire une leçon, c'est pas la même chose que si on lui fait une suggestion ou si, que si on lui donne un ordre. Donc, après ça, on pourrait éventuellement développer ça, mais il y a beaucoup de manières où on respecte un peu la susceptibilité de l'autre quelque part. Bon, on est tous, à certains moments, quand on nous fait une remarque, ça ne nous fait pas forcément plaisir. Hein. Enfin, peut-être vous, mais on est comme ça.
Comment aussi s'y prend-il pour faire évoluer des personnes qui seraient justement trop laxistes, mais qui se reposeraient sur leur normalité, dans la perfection? Parce qu'on a tendance à refrayer un peu des gens qui sont très volontaires, autoritaires, etc., mais il y a aussi des gens qu'il faut stimuler.
Oui.
Comme prétexte, le rôle des doux, le rôle des timides, enfin, le rôle de ceux qui se mettent en dessous tout le monde, etc. Il y a des fois des amalgames.
Oui. Alors, déjà, c'est bon de savoir que Saint François de Sales, bon, il a écrit ça, mais souvent, il s'adressait vraiment à une personne particulière, donc il s'adaptait vraiment à la personne qui était en face de lui. Voilà. Alors, pour ce profil de personne, ça dépend un petit peu pourquoi aussi cette personne a tendance à s'endormir un petit peu. Alors, je pense que. Alors, je ne sais pas exactement comment il faisait, mais il n'hésitait pas à dire tiens. Mais alors, Saint François de Sales utilisait aussi beaucoup l'humour. Alors, c'était jamais de l'ironie. Mais il utilise beaucoup l'humour. Alors, quelquefois, il y a des réflexions, quand on les dit avec un peu d'humour, ça passe quand même un peu mieux. On dit, ah, tiens, vous allez rester toute votre vie à ce niveau-là? Enfin, je ne sais pas après comment. Comment mais voilà, après, je ne sais pas exactement. Mais si vous lisez tout, vous pourrez nous refaire une conférence. On va conclure là, ça va?